Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Au micro, c'est jeudi Daniel Kachama, Jean-Claude Siala à la mise en onde. Service militaire obligatoire à l'université, quels sont les préalables? On en parle avec le professeur Michel Bissakiboul, un membre de l'équipe de coordination des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Professeur Michel Bissa, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bienvenue dans Okapi Service, on vous retrouve dans quelques instants pour échanger autour de cette thématique, le service militaire obligatoire dans à l'université. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler inondations, comment prévenir les inondations et les dégâts qui peuvent s'en suivre dans les grandes villes du pays. Eh bien, on en parle à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation. Priscille est à la elle travaille avec Tati bien entendu à la réalisation, et Jean-Claude Siala à la mise en onde. Au micro, c'est jeudi Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous allons parler du service militaire obligatoire à l'université. Désormais, la formation militaire est obligatoire. Non, de la formation. Eh bien, la formation militaire est obligatoire dans les classes de recrutement, dans les universités et instituts supérieurs de la RDC. Cette décision du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire est d'application depuis le 5 janvier dernier. La phase pilote démarre cette année académique à Kinshasa, où les étudiants nouvellement inscrits dans les universités vont suivre pendant 15 jours une formation au camp militaire Kibomango. Quel est le bien fondé de cette initiative? Quels sont les préalables à réunir pour une bonne organisation de cette formation? Professeur Michel Bissa est membre de l'équipe de coordination des états généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision, la formation militaire obligatoire dans nos universités?
Oui, je pense que le problème, c'est l'angoisse existentielle actuelle au niveau de la République, parce que vous savez que la République démocratique du Congo est un pays agressé de toutes parts. Ça fait bientôt 30 ans que le pays venait de démarrer dans des conjonctures sécuritaires très, très enflammées. Et à tel enseigne qu'on évoque aujourd'hui le risque de la balkanisation du pays. Pour faire face à cela, je pense que le chef de l'État, mais également plusieurs autres institutions et structures, avaient estimé qu'il fallait former notre jeunesse, il fallait les doter des réflexes sécuritaires, mais surtout des capacités de pouvoir défendre le pays. Ça, c'est un élément important, et je pense que de faire au mois de janvier, comme on est actuellement, c'est également rentrer dans le cadre de l'appel de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila qui appelait à l'autoprise en charge de la population, du pays par la population. Donc je pense que c'est toutes ces questions-là. Mais maintenant, bon, le faire, on ne doit pas le faire dans une certaine précipitation. Nous allons revenir par rapport à cela. Plus tard, quels sont les préalables? Comment est-ce qu'on devrait le faire? Donc au niveau mais la philosophie de la conception, c'est quelque chose de positif. D'ailleurs, ça se fait dans plusieurs autres pays du monde, même si la tendance actuellement est régressante, parce qu'il y a eu des pays qui l'avaient fait et qui n'ont plus de service militaire obligatoire, mais on a également quelques autres pays qui sont en train d'avancer. Je pense que le souci majeur qui justifie cela, c'est le souci de défendre les pays, y compris sur le plan militaire.
Bien. Est-ce que cela avait fait également l'objet des états généraux tenus l'année dernière à Lubumbashi?
Est-ce que non. En tout cas, au niveau des états généraux tenus à Lubumbashi en 2021, la question spécifique du service militaire n'avait pas été prise en compte. Même lorsqu'on a rédigé le curricula de formation au niveau de l'enseignement universitaire, ce curricula n'avait pas été prévu. Mais il se fait que le ministre de tutelle a pu organiser plus tard, avec l'aide du commandement des écoles militaires, avec l'école de guerre de Kinshasa que dirige le général Godefroy Mouland, une session, je pense à Kisantu, réunissant un certain nombre de collègues, dont notamment l'Université de Kinshasa, pour rédiger un programme qui devrait servir par rapport à cet objet-là. Mais les états généraux, de manière stricte, n'avaient pas abordé la question du service militaire obligatoire, même si on avait abordé la question du patriotisme. Il fallait intensifier des matières en lien avec la formation patriotique.
Bien. Alors, on peut dire qu'à ce jour, cette formation a déjà démarré à Kibomango?
En tout cas, à ma connaissance, non, pas encore. Et c'est ça l'angoisse actuellement.
Et qu'est-ce qui fait que la formation n'a pas encore débuté?
Bon, en réalité, je pense qu'il y a eu une certaine précipitation ou alors une impréparation par rapport à cette question. Je comprends bien les soucis du ministre Mohindo, mais également du gouvernement Sama Lukonde. Mais la question du service militaire obligatoire dans tous les pays du monde ne sont pas des questions qui se traitent de manière conjoncturelle. Ce sont des questions structurelles et qui s'inscrivent dans un programme à long terme. Mais vous pouvez voir, par exemple, chez nous aujourd'hui, le souci majeur vient du fait que ce projet n'a pas, par exemple, été budgétisé. Le budget 2022 ne l'a pas prévu. Le budget 2023, qui a été promulgué, n'a pas prévu cette formation. La programmation également dans les priorités du gouvernement. Je ne sais pas si le Conseil des ministres a pu faire un autre programme. Mais aussi, il y a un souci, c'est que le calendrier académique au niveau de l'université n'avait pas également prévu cette formation. Cela fait que nous sommes dans un pays à double système d'enseignement. Nous avons l'enseignement supérieur public et nous avons l'enseignement supérieur privé. Chez le privé, je prends l'exemple d'une université comme l'Université catholique du Congo, où aujourd'hui, pratiquement, ils sont en train d'avancer vers la finalisation du premier semestre des cours. Et puis, il y a plusieurs autres universités privées. Alors, là-bas, les cours avaient déjà commencé sans savoir qu'il y aura une obligation du service militaire obligatoire. Mais également, au-delà des annonces dans les médias, il n'y a pas eu une note circulaire du ministre de tutelle à l'égard de tous les chefs d'établissement pour donner les modalités pratiques de cette formation militaire obligatoire. Donc, en tout cas, à ce jour, il y a une rentrée académique à gauche, à droite, mais je n'ai pas l'information de quelque part où ça aurait déjà commencé.
Bien, donc la décision a été prise, mais il reste à mettre en place l'organisation, les mesures d'encadrement, comment ça va se passer. Pendant 15 jours, les étudiants seront dans les centres de formation, comment seront-ils héberger, leur restauration, etc. Il y a beaucoup de préalables qui vont avec. Mais d'après vous, comment les choses devaient être organisées?
Oui, en fait, messieurs les journalistes, oui, le ministre de l'enseignement supérieur a annoncé la décision, mais également il a annoncé la durée et l'échéance. Il avait dit que au début de la rentrée académique, avant de commencer les cours, tous les étudiants devraient passer 15 jours. Alors, il faudrait peut-être partir d'autres pays. Je peux donner peut-être quelques exemples. Lorsqu'on est dans un pays comme la Corée du Sud, ou l'Algérie, en Corée du Sud, par exemple, il y a une formation militaire de 18 mois, obligatoire, mais exclusivement pour les êtres de sexe masculin, c'est les hommes. En Algérie, ici chez nous en Afrique, là également, il y a un service militaire obligatoire, mais qui ne se limite pas qu'au niveau des enjeux militaires, mais surtout au niveau de la préservation du pays aussi en temps de paix. C'est un élément capital, monsieur le journaliste, pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, même la notion de la guerre a évolué. La guerre est devenue un enjeu global. On parle de l'enjeu holistique. La guerre ne se mène plus que sur le terrain de l'affrontement militaire. La guerre peut être également au niveau de l'affrontement sur le plan de la sécurité alimentaire, sur le plan de l'information, sur le plan du patriotisme, l'amour du pays, la défense du pays. Alors, c'est d'abord ça qu'on appelle la philosophie de l'armée. Quelle armée nous voulons-nous avoir? Une armée de masse, de gens qui iront se battre, ou une armée intelligente capable de se déployer sur plusieurs fronts militaires, civils, virtuels, ainsi de suite? Ce débat-là de la philosophie de l'armée, quelle armée voulons-nous pour demain? Pour quel type de sécurité? Ce débat n'a pas eu lieu.
Oui.
Et à partir du moment professeur... où ce débat n'a pas eu lieu, ça a été un premier préalable
Et professeur,
qui nous a manqué.
Et une chose, pour prendre une telle décision, je pense que c'est là, le Parlement devrait également voter une loi ou statuer autour de cela.
Justement parce que, attention, c'est une question qui touche également aux dimensions constitutionnelles, puisqu'il s'agit de toucher à la fois sur la liberté des jeunes, mais également sur la capacité de vie ou de projet des individus. Un tel débat devrait être d'abord au niveau stratégique du gouvernement, mais également au niveau du Parlement. Ça aussi, c'est un enjeu qui n'a pas eu lieu. Alors, mais maintenant, étant donné qu'effectivement les fondamentaux, l'angoisse existentielle de notre pays justifie le fait que nous devons préparer nos enfants à une guerre perpétuelle. Nous serons toujours enviés, toujours attaqués. Il faut alors que nos enfants soient armés à affronter cela.
Oui,
professeur.
Mais maintenant,
sur les plans intrinsèques,
oui,
nous pouvons relever au moins 6 anomalies.
Lesquelles?
Premièrement, la durée de 15 jours. Les 15 jours, c'est pour aller donner quelle matière? J'étais en train de vous dire ici que lorsqu'on est, par exemple, en Algérie, c'est une formation au début qui était de 12 ans à partir de 19 ans. 12 mois. C'est-à-dire, c'était une formation d'une année.
Oui.
Et vous voyez, de une année en Algérie, quand vous allez en Corée du Sud, c'est 18 mois.
18 mois, oui.
Le pays qui en propose le moins possible, c'est un semestre, c'est-à-dire 6 mois. Et lorsqu'au Congo, on parle de 15 jours, il faut se dire, en 15 jours, on va donner les dimensions de maniement d'armes, les dimensions d'entraînement physique, les dimensions de formation patriotique et idéologique, la question des enjeux stratégiques sur les frontières. Ça, c'est un premier problème, c'est que les 15 jours ressemblent en tout cas à une fantaisie. Deuxième anomalie majeure, c'est le fait que la question semble être une question du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Sous d'autres cieux, c'est une question qui touche à la fois le ministère de la Défense et le ministère ayant la jeunesse dans ses attributions. Parce qu'il ne faut pas voir que la jeunesse étudiantine, il faut voir la jeunesse de manière globale. C'est pour cette raison-là que partir de l'année de promotion, comme ça veut se faire chez nous, on dit tous les étudiants nouvellement inscrits, c'est une anomalie. Il fallait dire tout être humain ayant totalisé tel âge, soit 18 ans, soit 19 ans, ou 20 ans. Là, oui. C'est une question. Alors, entendu comme tel, c'est le ministère ayant la citoyenneté dans ses attributions qui devrait s'en occuper, ou alors le ministère ayant la jeunesse, mais également partenariat avec le ministère de la Défense nationale et de la Sécurité. Troisième anomalie, c'est que dans les classes de recrutement dont on parle, on dit tous les étudiants des classes de recrutement, on n'a pas prévu des exceptions. Dans les classes de recrutement, nous avons parfois des étudiants âgés de 60 ans. Et vous savez qu'à l'université, on n'interdit pas à quelqu'un d'étudier. Nous avons des femmes enceintes qui s'inscrivent également à l'université, ce n'est pas interdit. Nous avons des étrangers qui s'inscrivent à l'université, ce n'est pas interdit. Il y a donc la question des prix et des exceptions qui n'a pas été prévue à tel enseigne qu'on dit tout le monde va partir. Quatrième anomalie, Nous avons le système d'enseignement supérieur et universitaire public et privé. Dès que des choses se passent, on semble dire que c'est plus les gens de l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani. Alors, ça dit qu'on est dans une phase pilote, mais une phase pilote qui ne regarderait que de la jeunesse étudiantine, ça ne marche pas.
Bien, cette professeur.
Phase devrait concerner professeur toutes Michel. Les catégories de la jeunesse.
Professeur Michel.
Les scolarisés, les non scolarisés, ainsi de suite. Là,
d'accord.
Ça crée également un problème qui n'a pas été prévu.
Un instant, professeur. Alors, un instant, professeur Michel. On va accueillir les auditeurs. Safari nous appelle depuis Gabarrière et Soupignebo est à Kalima. Safari, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au, par rapport à la formation militaire obligatoire à l'université?
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour également, monsieur le député.
Oui,
par rapport à l'émission, j'aimerais dire ceci. Le fait d'annoncer que la formation obligatoire sera au niveau de l'université, c'est quelque chose qui me plaît déjà. Oui, mais il y a un problème, monsieur le député. C'est parce que ce n'est pas tous les jeunes qui vont à l'université. D'après mes études, j'ai à faire. Moi, par exemple, je suis ici, j'ai la volonté d'aller à l'armée. J'avais même essayé une fois le concours d'admission à l'académie militaire de Kananga, là où j'avais pas participé, disons, mais j'avais eu le découragement. Et à mon niveau,
Mais Safari, vous voulez vous enrôler, mais dernièrement, après le message du chef de l'État invitant à la mobilisation populaire, on a vu beaucoup de jeunes aller s'enrôler. Beaucoup de jeunes sont allés dans l'armée. Pourquoi vous ne l'avez pas fait si c'était également votre désir?
Je n'avais pas le choix. Je devais aller normalement à l'académie militaire, qui est à Kananga, je crois. Ouais, mais les recrutements que le chef de l'État avait annoncé, c'était par rapport au centre de formation. Donc, ça diffère. À l'académie, il y a centre de formation. Moi, j'avais visé l'académie. J'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas participé. J'avais beaucoup attendu, beaucoup de rumeurs. Alors, à mon niveau, je suis ici, c'est ce que je disais, je suis ici, mais je n'ai pas eu la chance d'aller à l'université. Et pourtant, maintenant, on donne la chance aux universités d'aller aux formations obligatoires. Donc, ma demande serait d'élargir le secteur, de simplement s'arrêter au niveau de l'université. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'établir aussi ce genre de choses au niveau des humanités?
D'accord. D'accord. Merci. On a compris votre préoccupation, que c'est qu'on se limite pas seulement à l'université, mais on peut élargir. Soupignebo, vous êtes à Kalima, bonjour.
Bonjour, monsieur Jelly, bonjour aussi à notre invité. Aussi,
Quelle est votre question par rapport à la formation militaire obligatoire à l'université?
Bon, cette formation obligatoire, elle est aussi arrivée à notre université de Kalima, à Nolaba, ici chez nous à Kalima, et ça fait maintenant 7 jours depuis que cette formation a commencé. Je connais même une fille qui était aussi prise, la fille qui était prise aussi à cette formation. Alors, la question que je voulais demander à notre invité est de savoir, est-ce que cette formation-là, on leur aussi apprend de tirer, par exemple, des balles, de faire tirer des fusils, ou seulement la formation se limite au niveau localement, là à l'université seulement, on ne leur apprend pas de comment tirer des balles ou des fusils. Et aussi pour terminer, je voulais aussi savoir si par exemple la guerre commence à notre pays, est-ce que ces gens-là peuvent être aussi associés avec des militaires congolais ou des policiers congolais pour aider à combattre les assaillants? Ou seulement il se limite juste à la sécurité de l'université dont ils sont pris. Voilà un peu.
Bien, merci. Professeur Michel, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Merci beaucoup. Je commence par les deux questions de mon compatriote de Kalima pour lui dire que, en principe, lorsqu'on donne une formation militaire obligatoire, le souci est double. Premièrement, c'est donner des réflexes sécuritaires pour que les gens défendent au quotidien la patrie de partout où ils sont, quoi qu'ils fassent. Ensuite, c'est constituer une base de données de réservistes pour qu'au cas où le pays est attaqué et que les militaires professionnels au front se retrouvent en sous-effectif, que la République soit capable de mobiliser tous les réservistes possibles et de les envoyer sur le front. Alors, est-ce qu'on se limite à apprendre à tirer? Ça, c'est une question capitale parce que, je le disais tout à l'heure, on ne devrait pas se limiter à apprendre aux gens à manier les armes sans leur donner une préparation patriotique conséquente. Sinon, il y a un grand risque de former des criminels. C'est toutes ces personnes qui risquent d'apprendre à manier les armes, si elles ne sont pas bien encadrées sur les plans déontologiques, sur les plans pratiques, risquent d'être récupérées le moment venu par des groupes armés, par des maï-maï, ainsi de suite, et nous risquons de nous retrouver alors finalement avec chaque communauté et ces gens qui apprennent à manier les armes. Là, ce sont les deux questions. Quant à M. Safari, je partage totalement votre angoisse. Le souci de pouvoir former de manière intégrale et complexe. Et cette formation de manière intégrale et complète pour les enjeux sécuritaires ne peut pas se faire en 15 jours, en 2 semaines, même pas en un mois. Ce délai-là est populiste, ça ne marche pas. Il faut des dimensions théoriques, des dimensions patriotiques, les formes de la guerre, mais aussi l'enjeu sécuritaire. Il faut savoir que lorsque les militaires sont sur le front, s'ils gagnent ou s'ils perdent une bataille, c'est-à-dire que ce sont les services de sécurité non apparents, ceux qui sont à la première ligne d'attaque, qui gagnent ou qui perdent la guerre. Et donc, il faudrait d'abord commencer également à intérioriser les dimensions du service de sécurité non apparent. L'ANER, des MIAP, ainsi de suite. Ça, il y a un grand problème. Et je le disais tout à l'heure, messieurs les journalistes, les risques majeurs, si on se précipite à apprendre aux gens à manier les armes, sans une formation intellectuelle, si la philosophie de l'armée, si les sortes de la guerre, aujourd'hui nous avons des guerres asymétriques, avec des terroristes, ce ne sont plus une guerre qui demande les effectifs, c'est des guerres qui demandent le quotient intellectuel. Ça, si on ne le fait pas, nous risquons plus de former des criminels au lieu de former des véritables patriotes. Je vous remercie.
D'accord, professeur. Donc, si on comprend bien, l'annonce a été faite de manière précipitée, alors que les choses ne sont pas encore bien clarifiées, bien planifiées.
En tout cas, la vérité est que je vous ai dit que j'ai regardé dans le budget de l'État. Je n'ai pas vu cette ligne budgétaire. J'ai vu que le gouvernement venait de faire une loi de programmation militaire qui est en ligne, que vous pouvez lire. Cette question n'a pas été programmée. J'ai regardé dans le programme du gouvernement. Ça n'avait pas été programmé. J'ai regardé le calendrier académique de cette année. Je n'ai pas vu la formation militaire programmée. Donc, tout découle d'une déclaration du ministre de tutelle, je pense, qui est adoptée au Conseil des ministres. Mais la programmation, la préparation en détail, la budgétisation, prenons le cas de ceux qui doivent aller à Kibomango. Pour amener les gens en formation militaire, il faut les caserner. C'est-à-dire, il faut construire des casernes pour recevoir tous ces étudiants. Il faut prévoir la ration alimentaire. Ils doivent être mangés, nourris. Il faut prévoir les dispensaires ou les hôpitaux. C'est vrai, l'armée en a au camp Kokolo. Mais il faut les mettre en musique. Toutes ces questions-là sont des questions qui demandent une certaine... Mais il faut également des sensibilisations. Ce ne sont pas des questions seulement à l'université. Il fallait que dans les médias, on voit les bien fondés. Qu'on en parle dans nos églises. Qu'on en parle dans... On appelle cela la socialisation. C'est une question capitale. Et je vous disais que des pays qui en font des courtes durées, parfois ça va autour de 6 mois. D'où il ne faut pas se limiter au niveau des étudiants, de la jeunesse étudiantine. Il faut élargir l'approche à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo.
Oui, mais
d'où
professeur.
Le point de départ doit être large.
Oui, professeur, nous savons qu'à l'époque, le ministre Billy Kambale et de la jeunesse avait fait également une telle proposition, le service militaire obligatoire pour tous les jeunes. avant d'accéder à l'université. On va accueillir d'autres auditeurs, Gaston de Kinshasa et Godet de Kikwit. Gaston, bonjour.
Bonjour, Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la formation militaire obligatoire à l'université?
Bon, je vais proposer, hein, je sais pas, qu'on intègre un cours, hein, ou un cours où on peut qualifier de droit de la guerre, droit de la guerre, surtout au niveau secondaire, en sixième année secondaire, je sais pas actuellement, et puis au niveau des universités, ces cours-là des droits de la guerre soient dispensés dans toutes les facultés. Alors, ça c'est droit de la guerre en soi, et puis, non seulement ces cours doivent avoir les formats actuels qu'on vit, que nous voyons dans la faculté des droits, mais que les cours, ces cours-là entraînent des formations pratiques où des étudiants vont aller apprendre des choses à caractère militaire, par exemple aller au front, de manier des armes et surtout connaître les droits de la guerre, les droits internationaux humanitaires qui régissent domaine ici.
Bien, Maître Gaston propose que le cours de droit à la guerre soit instauré dans le cursus de formation, donc dès le niveau secondaire jusqu'au niveau universitaire. À partir du niveau secondaire, c'est ça votre proposition. Ouais. D'accord.
Mais je voulais ajouter une chose.
Oui.
Je veux aussi dire que, vous savez, les militaires dans notre pays, on en a assez. Et actuellement, on a même recruté un groupe de gens, là où je vois des jeunes sillonner la République, c'est-à-dire une chance ici, des nouveaux recrues. Mm-hmm. Mais ces militaires doivent être là pour nous défendre dans les cas, dans des situations comme l'agression que nous subissons actuellement.
D'accord,
et
merci.
Ces militaires ne doivent pas provenir des écoles seulement, c'est comme la formation des recrutements que nous faisons habituellement.
Oui.
Et nous voulons que le gouvernement puisse bien équiper ces gens-là, surtout des gens qui doivent nous défendre pour que l'intégrité territoriale soit rassurée.
Soit préservée, d'accord.
Oui, préserver la souveraineté nationale.
Merci Gaston de Kinshasa. Godet, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, comment vous allez?
Très bien Godet, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette idée d'instaurer la formation militaire obligatoire de 15 jours pour les universitaires?
Vraiment, le sujet vraiment, monsieur le journaliste, est très, 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 très important. Vraiment, depuis 1960, on n'a jamais entendu la formation militaire par universitaire. Puisque, monsieur le journaliste, le grand problème, c'est quoi? Je suis tellement désolé d'écouter l'invité dire que ce n'est pas entré dans notre budget. Si ce n'est pas entré, et les missions que nous faisons, ça va être à l'air. Il faut que ça puisse entrer pour qu'on puisse exécuter cela dans notre budget. Quand on exécute pas cela, ça pourra être battu à l'air. Nous parlons à l'air. Mais c'est une bonne initiative que le gouvernement a pris pour que la formation militaire, pour que les militaires soient vraiment formés à l'université. C'est bien. Moi-même, j'ai préféré aller même commencer à faire de premier gradient jusqu'à système LSM. LMD, c'est l'université militaire, puisque nos militaires, ils ont les manières de tirer, de combattre et de combattre la guerre, mais pas connaître la cartographie de notre pays, l'histoire de notre pays, ils s'en aillent là, et même les manières d'agir devant la population, ça n'est pas. Mais quand ils s'en aillent à la formation universitaire, ça sera mieux. Et la question que j'ai pu poser à l'invité, cette initiative, la raison pour laquelle on n'a pas budgétiser cela dans notre gouvernement, c'est lié à quoi? Alors, deuxième préoccupation, la majorité de notre militaire, on ne peut pas abandonner les recrutements. Les recrutements va continuer, mais la formation universitaire, c'est très capital pour voir des bons militaires et des militaires qualifiés.
Merci.
Et intelligents.
D'accord.
Comment c'est bien cette initiative?
Voilà.
Je demande à la réalité de plonger cela dans notre budget pour que
merci Godet, merci Godet de Kikwit qui soutient cette initiative. Je vais rapidement lire les réactions des internautes. Héritier Ouamenga nous a écrit depuis Kisangani. Je pense que cette décision n'a pas son pesant d'or, car le pays ne manque pas des effectifs militaires considérables pour se défendre. Plutôt, il faut bien équiper ses soldats et les mettre dans des conditions convenables. Sinon, former les jeunes gens serait une bombe à retardement, dans la mesure où le pays fait face aux multiples rébellions. Cela risque de créer encore d'autres. Yves Ilunga, une décision irréfléchie. Il devrait réfléchir par deux fois avant de prendre ses décisions. À mon avis, c'est une bombe à retardement pour les jours à venir, car les jeunes qui vont finir leurs études et sans emploi, frustrés, risqueraient de se lancer dans le banditisme. Emmanuel Christian nous dit: que pense le ministre pour les étudiants étrangers? Fariel Malasa de Kinshasa: c'est une mesure salutaire et cela va permettre à tous les Congolais d'avoir l'amour profond de son pays, et en défendant cela à tous les niveaux. Et nous devons encore connaître une chose que peut-être beaucoup de personnes ignorent: c'est dans l'armée que l'on connaît les vrais patriotes. Docteur Kipasa est en ligne depuis Kikwit. Bonjour docteur.
Bonjour Jody, meilleurs voeux, bonjour au professeur Michel. Moi je prends la partie du professeur Michel. Mmh. Excellente idée. Il faut vraiment féliciter le président de la République pour cette initiative. L'histoire nous apprend qu'au Congo, c'est pas la première fois. Rappelez-vous, le professeur Michel suit, à l'époque de feu président à Mobutu, il y a eu enrôlement des étudiants. Mais là, les contextes étaient différents. Mmh. C'était beaucoup plus pour des raisons de discipline. Et c'est faux, c'est que les deux ceux qui ont écrit là en disant c'est une bombe à retardement, c'est faux. Et c'est d'ailleurs ce qui constituera ma question pour le professeur Michel. L'un des pays les plus organisés en ce qui concerne le service de l'armée, c'est les États-Unis. Mais il n'y a pas de rébellion là-bas. Au contraire, comme l'avait vu le président Mobutu, les gens qui sortent de l'armée, c'est une grande école. D'ailleurs, le président Mobutu avait commencé par envoyer ses propres enfants dans l'armée. C'est une école de discipline. Les gens qui sortent de l'armée, généralement, ils sont très, très disciplinés. Et évidemment, il y a ceux qui s'égarent un tout petit peu, mais généralement, c'est une bonne école. Et je voudrais dire ceci. Professeur Michel, le problème des conjonctures, c'est la guerre qui a poussé. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'approche des États-Unis, qui est, il n'y a pas de guerre, et on dit, qui veut la paix prépare à la guerre. Mais ils ne sont pas en guerre. Mais au contraire, par rapport à la Corée, l'Algérie, les États-Unis ont une très belle approche qui crée des facteurs de motivation aux jeunes pour aller dans l'armée. C'est-à-dire, quand on va considérer le problème des budgets, qu'on pense à faire comme les États-Unis, mais directement, c'est une bourse en fait. Aujourd'hui, le plus grand problème des étudiants, c'est payer leurs études. Mais aux États-Unis, la plupart des gens qui vont dans l'armée, ils sont boursiers de l'armée, et ils auront des services à rendre plus tard.
D'accord. Mais docteur Anissé, il y a également une préoccupation par rapport à la durée même de la formation. 15 jours pour le professeur Michel, c'est dans 15 jours, qu'est-ce que ces jeunes vont apprendre?
C'est peu. Je prends l'approche américaine. Ceux qui vont dans l'armée sont les ingénieurs, je dis, le professeur Michel est là, les meilleurs ingénieurs, que ce soit en balistique, en tout ce que vous voulez, ils sont dans l'armée. Il y a les meilleurs hôpitaux aux États-Unis, ce sont les hôpitaux de l'armée. Ça signifie, quelque part, l'armée, les 15 jours, c'est très peu. Il ne faut pas envoyer les gens devant des canons sans beaucoup trop d'expérience. Qu'on utilise l'approche américaine, ça va vraiment nous aider. Il a parlé de la Corée, de l'Algérie. Moi, je pense que l'approche américaine était à avoir. Évidemment, on ne va pas tout prendre. Il faut augmenter le nombre de jours.
Bien, merci docteur. Merci docteur Anissé qui passe à des Kikwit. Charles est à Lubumbashi. Nous parlons de la formation militaire obligatoire pour les universitaires. Pendant 15 jours, les nouveaux recrues doivent aller en formation. Cela devait démarrer depuis le 5 janvier, mais professeur Michel nous dit que c'est pas encore le cas. Charles, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour aussi à tout le monde.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Messieurs les journalistes, qu'on ne puisse pas flatter les chefs de l'État. Ce n'est pas l'effectif des militaires qui nous manque ici chez nous. Là, j'ai fait allusion à l'auditeur de tout à l'heure. On ne doit pas faire les exemples des États-Unis et d'autres pays occidentaux, dont leur armée dispose déjà d'un budget consistant. En tout cas, toutes les bonnes conditions du monde sont là. On ne doit pas faire d'exemple avec ces pays-là. Ici chez nous, messieurs les journalistes, on ne peut pas songer à aller épouser la deuxième femme si vous n'avez pas encore maîtrisé d'abord la première. En tout cas,
ah bon?
En tout cas, vous n'irez pas loin. Maîtrisons d'abord l'effectif actuel que nous avons. L'effectif est là. C'est question managériale. C'est question de la motivation. En tout cas, si on n'a pas encore maîtrisé cette question-là, comment ça ne doit rien faire. Et puis, une petite question, messieurs les journalistes. Si, en cas d'un quelconque recrutement, pourquoi ne pas commencer, par exemple, dans des partis politiques, notamment avec des jeunes, c'est là qu'on appelle des JDPC, des JINAFEC, parce que je me rends compte que ils ont déjà un esprit militaire. Et ici, les vrais militaires ont même peur de ces jeunes-là. Ils sont déjà formés. Il suffit seulement de les donner des tenues et des armes. En tout cas, ils produiront des meilleurs résultats. Au lieu de ces 15 jours-là, c'est comme l'émission qu'on a fait ici, la formation des droits de l'homme. 2, 3 jours, 4 jours après, tu deviens défenseur. En tout cas, ça, c'est du temps perdu. Moi, je pense que on doit d'abord raisonner, méditer encore par rapport à la durée de la formation. Quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'a jamais été ni policier, ni PCR, ni militaire, mais vous me formez dans 15 jours. Là, d'abord, vous préparez ma propre mort. Il faut un temps consistant. Voilà un peu, messieurs les journalistes, ce que j'ai voulu aussi partager.
Bien, donc nous parlons de la formation des nouvelles recrues. Les jeunes universitaires, ceux qui viennent de s'inscrire nouvellement à l'université, voilà, d'après la décision du ministre, ils doivent aller faire une formation militaire pendant 15 jours et ensuite, bon, ils vont revenir poursuivre leur formation académique. Mais il y a des préalables. Donc, professeur Michel, qu'est-ce que vous pouvez, votre réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence par le docteur Anissé de Kikwit pour lui dire que oui, le modèle américain, c'est quand même un modèle idéal, mais attention, aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas un service militaire obligatoire. Aux États-Unis d'Amérique, il s'agit de créer simplement des facteurs de motivation à travers le traitement conséquent des militaires, la mise à disposition des moyens de fonctionnement, des moyens de travail pour qu'ils produisent. Je suis d'accord avec lui. Les grandes inventions de ce monde viennent souvent du domaine de l'armée. Et dans beaucoup de pays qui sont premiers producteurs, même en matière agricole, vous allez voir que les génies civils des militaires, ils travaillent. Et chez nous, il y a un bel exemple avec ce qu'on appelle le service national. Le général qui est là fait un travail formidable au niveau de la production agroalimentaire. Mais notre armée a un autre problème, c'est ce qu'on appelle la revanche des médiocres. Nous avons eu un nombre de gens qui n'ont pas étudié, qui sont devenus colonels, généraux, et qui fournissent un effort de ne pas faire promouvoir ceux qui viennent avec les quotients intellectuels. Je suis d'accord avec l'intervenant Charles de Lubumbashi qu'il faut les traitements. Et les facteurs de démotivation chez nous, c'est lorsqu'on regarde ce que touchent nos officiers, des officiers qu'on peut rencontrer dans la rue, en tenue, en galon, et ainsi de suite. Mais M. Godet de Kikwit, tenir compte de l'école de base, vous avez totalement raison. C'est pour cette raison-là que cette question devrait être une question interministérielle. Il fallait que déjà à l'école maternelle, à l'école primaire, qu'on sache quelle partie des cours il est, le patriotisme on donne aux étudiants, le sens du sacrifice suprême, aux élèves. C'est la question de la préservation de l'État doit traverser l'ensemble de notre structure de socialisation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, pas seulement les écoles, mais également nos familles, nos églises, nos partis politiques, nos ONG, on devrait avoir un discours sur la préservation de l'État. Cette question ne doit pas être une question conjoncturelle. Ce n'est pas lorsqu'il y a la guerre que nous nous disons que nous devons former les militaires. Mais ça doit être une question structurelle. Et je suis d'accord, Billy Kambale avait proposé une loi, et une proposition au projet de loi, ça n'avait pas abouti. Un député du MLC, son nom Semba Ousou, qui ça je pense,
avait également proposé une proposition, projet de loi. Ça n'a pas également abouti. Donc, il faut traiter cette question de manière calme pour des effets à long terme.
Bien.
La question des effectifs doit marcher avec celle de la qualité, des pairs. Il ne faut pas avoir que la quantité sans la qualité. Peut-être que c'est au nom de cette angoisse qu'ils ont voulu commencer au niveau de la jeunesse consciente, la jeunesse universitaire. Mais cette jeunesse est consciente de tout, y compris de la manière dont on traite le militaire actuellement. D'où la question doit être traitée de manière globale et il faut une grande campagne de sensibilisation. Alors, lorsqu'on dit qu'il faut prévoir les cours à l'université, droit à la guerre, filière de sécurité, là, c'est deux questions différentes.
Oui, professeur, nous savons qu'actuellement, il y a des nouvelles recrues au niveau de l'armée, mais les étudiants ne sont pas des nouvelles recrues. C'est tout, on leur donne tout simplement de la formation comme réserviste.
Oui, c'est-à-dire pas seulement comme réserviste, mais en réalité comme des gens qui peuvent préserver l'État en temps de paix. Il y a des gens qui sont des nouvelles recrues, ça c'est des militaires professionnels, qui vont faire leur carrière dans l'armée. Mais la formation qu'on veut donner aux militaires, aux étudiants ou à la jeunesse, ça doit être doté des réflexes sécuritaires, mais également la capacité de savoir manier des armes pour qu'au cas où la République avait besoin d'eux. Donc il y a deux dimensions. Une dimension de réflexe sécuritaire, lorsqu'on voit un étranger dans l'avenir, on doit savoir qui il est. Lorsqu'on passe dans les médias internationaux, on ne doit pas dire le mal de son pays. Lorsqu'on travaille à la banque, on ne doit pas donner l'information sur le nombre de nos armées, ainsi de suite. D'où ces questions-là sont à séparer de la formation académique traditionnelle, parce que dans les universités, on a tout le monde, étrangers, nationaux, vieillards, jeunes. C'est pourquoi on a pensé les années ailleurs. Mais attention, lorsqu'il y a plusieurs scénarios, soit que c'est des instructeurs qui viennent vers des institutions, là-bas alors c'est une formation d'ordre général, mais lorsqu'il y a une formation d'ordre patriotique, nous voulons nourrir nos étudiants d'une dose de jalousie, apprendre à défendre notre pays d'une dose de l'amour et d'une dose de la haine à l'égard de nos ennemis. Ça doit se faire dans des structures appropriées et bien prévues.
Bien.
Mais pour le faire aussi, M.
D'accord, professeur Michel, je reviens à vous.
La population, oui.
D'accord, je reviens à vous dans quelques instants. Nous parlons de la formation militaire obligatoire à l'université. Quels sont les préalables? On va accueillir d'autres auditeurs, Mathieu de Lubumbashi et Madame Claudia de Colouzi.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Formation militaire obligatoire à l'université, quels sont les préalables? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec le professeur Michel Bissard, membre de coordination des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Mathieu, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette thématique?
Oui, je voulais intervenir par rapport au sujet du jour. C'est un sujet qui est pertinent, mais tout simplement, par rapport au temps, le temps est trop minime parce que vous ne pouvez pas espérer former des gens pour faire assurer la sécurité du pays en dehors de 15 jours. C'est trop petit. L'armée, c'est un domaine tellement très complexe. D'abord, si vous vous souvenez, Mouzé est venu ici. Il a intériorisé la notion de la sécurité à toutes les couches de la population. Même dans les fonds, au village ici, nous avons vu des groupes, dans tous les groupes, il y avait cette notion-là de se prendre en charge. Pour moi, ce que je ne trouve pas bon, on ne peut pas faire des choses comme s'il y avait une
une pression. La menace qui est à l'Est, l'insécurité qui est à l'Est, ne doit pas nous pousser à faire des choses de manière...
À prendre des décisions dans la précipitation.
Dans la précipitation. Il faut mûrir, il faut du temps. Bien sûr, nous avons des modèles des États-Unis. Mmh. Pendant que ici, nous parlons, nous pensons donner la gestion de l'armée, de la sécurité aux nouveaux étudiants. Aux États-Unis, chez eux, il n'y a pas la guerre. Il y a déjà leur programme là. Et maintenant, il y a des formations qui se font chaque année, chaque fois, à chaque période. Mais pour nous aussi, il faut du temps, il faut élargir, pas seulement cibler un groupe de gens comme les étudiants. Toute la population doit être concernée.
Voilà, merci Mathieu de Lubumbashi qui nous dit que l'idée... Merci Mathieu, on comprend que vous voulez dire que l'idée est bonne, mais il faut la mûrir, ça demande du temps. Il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Madame Claudia de Colouisi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, c'est une excellente initiative, mais si toutefois il n'y a pas de budget, alors la formation ne sera pas obligatoire parce qu'on ne va pas imposer aux parents de prendre en charge les frais pour la formation. Mais s'agissant du timing, si c'est 2 semaines, qu'on appelle même pas ça formation militaire, parce qu'une formation militaire ne peut pas prendre 2 semaines, c'est insuffisant. Mais toutefois, pourquoi ça va permettre aux jeunes d'être en mesure de se défendre? Parce que, vu l'accroissement du taux d'insécurité dans ce pays, tout le monde doit vraiment être en mesure de se défendre, hommes ou femmes. Et s'agissant aussi de nos jeunes qui grandissent sans toutefois pratiquer du sport, sans toutefois avoir à parcourir de longs trajets à pied, elle leur sera utile. Parce qu'on voit de nos jours un jeune atteindre facilement 15 ans sans avoir eu à se battre de toute sa vie. Ils ne sont pas forts, vraiment, ils sont mous. Et cette formation pourrait vraiment leur permettre d'être en mesure de se défendre, d'être aussi fort. C'est important. Mais à entendre parler d'invités, là, on ne pense pas que ça pourra commencer cette année. Ça ne sera pas possible.
Voilà, bon, ça, la formation a été annoncée déjà pour le 5 janvier dernier, mais jusque là, ça n'a pas encore démarré, d'après le professeur Michel. Merci, Madame Claudia de Colouisi. Professeur, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup. Madame Claudia de Colouisi a raison. La formation est pertinente, elle est même nécessaire pour notre pays. Mais nous devons faire la séparation entre les recrues. L'armée a ses recrues. Des gens qu'on recrute pour faire la carrière dans l'armée, ceux-là ont une formation militaire stricte et sévère. Et la formation qu'on veut donner à nos jeunes qui viennent à l'université devrait être la version miniaturisée de cette formation-là des recrues. Deuxièmement, il faut savoir que l'armée a des missions à assumer en temps de paix et en temps de guerre. En temps de paix, l'armée est dans des missions holistiques, alternatives, qui sont des missions de développement, de réflexes sécuritaires, de préservation de l'État. Et ça, ces recrues doivent les porter tout au long de leur vie. Chaque Congolais devrait défendre le pays là où il est. Mais aussi, nous ne devons pas nous limiter dans la dimension armée militaire. Il faut également voir la dimension sécuritaire. La gestion de l'information, ainsi de suite, c'est très capital. Troisième groupe de préalables pour répondre à M. Mathieu. Les centres d'inscription qu'on appelle dans les domaines militaires, les CI, connaissent des pratiques parfois fortes. Et donc, il faudrait également qu'il y ait un certain nombre de préalables par rapport à la définition du contenu même des exercices physiques, du contenu de la nature d'armes que ces réservistes peuvent être appelés à apprendre à manier. Des petites armes, des calibres ou jusqu'à l'artillerie, c'est à nous de voir. Quatrième élément, c'est est-ce que ça doit commencer cette année? Le ministre avait parlé de cette année, mais je pense que ça a un tout petit peu grippé. Parce que commencer cette année, en tout cas, il y a déjà les sites privés où il y a des institutions qui ont avancé déjà avec la nouvelle année académique. Il y a dans le public où ça devrait aller. Il y en a qui n'ont pas encore fini les inscriptions. J'ai vu qu'à l'université de Kinshasa, un communiqué annonce que les inscriptions vont prendre fin le 5 février, alors que la formation était prévue pour le 5 janvier. Donc il n'y a même pas encore des étudiants inscrits là où on était prévu de prendre en priorité. C'est pour dire que l'idée est géniale.
mais nous risquons d'assister à la faillite d'une bonne idée.
Bien, alors, pour que la bonne idée ne puisse pas faillir, vous avez dit qu'il faut répondre à tous ces préalables-là, par rapport à la durée, étendre la formation à tous les jeunes, n'est pas la limiter aux nouveaux inscrits à l'université, et puis collaborer avec le ministère de la Jeunesse et le ministère de la Défense pour bien organiser les choses.
Oui.
Et par rapport aux parents, les parents n'ont pas des avis à émettre là-dessus, ou bien c'est obligatoire, c'est fini, on l'impose à tout le monde.
En fait, les parents peuvent avoir des avis à émettre ou non. D'abord, il faut noter que les enfants sont à priorité la ressource de l'État. Les enfants appartiennent plus à l'État qu'aux parents. C'est pour cette raison-là que un parent n'est pas libre, par exemple, d'aller avorter un enfant qui est dans son ventre. Mais ailleurs, pour éviter que les parents n'aient à se prononcer, il fallait justement, parmi les exceptions, partir de la variable âge. C'est-à-dire, comme chez nous, la maturité est à 18 ans, on dit toute personne à l'âge de 18 ans. Or, dans les classes de recrutement, nous avons de plus en plus des élèves, des étudiants de 17 ans qui arrivent à l'université. Mmh. Mais là aussi, la problématique des parents, Madame de Coloésie, Madame Claudia l'a dit ici, qu'on a des enfants qui grandissent, qui n'ont jamais appris à se battre, à se défendre. Toutes ces questions-là sont des questions qui militent pour que la question soit d'abord traitée au niveau du Parlement, couverte par une loi. Troisièmement, budgétiser dans le budget de l'État, programmer avec une feuille de route qui définit les objectifs globaux, les objectifs spécifiques de chaque cours, le contenu minimum des enseignements. Mais ça, les journalistes, savez-vous que même les LMD que nous appliquons dans nos universités, l'État s'est limité à nous donner la nomenclature des cours, dans la liste des cours. On n'a pas donné le contenu minimum de chaque cours. À tel enseigne que chaque enseignant enseigne le contenu qui lui plaît. Quand je suis à l'UNIKIN, le cours que je donne de l'histoire politique du Congo n'est pas le même cours qui est donné à Lubumbashi ou à Bukavu. Maintenant, imaginez-vous si ça doit se faire dans le domaine de l'armée. Nous risquons de nous retrouver avec des gens qui iront défendre leur village, leur communauté, leur collectivité. Et prenons au sérieux l'observation faite par un auditeur qui a dit que ça risque d'être une bombe à retardement. C'est-à-dire donner la formation et les réflexes militaires, apprendre à manier des armes aux gens qui, à l'issue de leur formation, on ne sait pas leur donner un emploi ou des perspectives intéressantes, risque le lendemain d'utiliser ce savoir contre la République. Donc il y a tous ces enjeux, tous ces paramètres qui militent un débat assez ouvert, aussi bien au niveau de nos universités, pas tel que ça a été fait, mais également un débat politique. Je ne vois pas pour quelle raison la proposition de la loi sur le service militaire obligatoire n'a pas été adoptée, n'a pas été discutée, mais on passe directement à l'opérationnalisation. C'est ça le problème.
Bien. Merci oui, professeur oui. Michel. On est arrivé à la fin de cette première partie de l'émission. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement, si on peut avoir le ministre. Nous allons tenter d'avoir le ministre lui-même pour en savoir plus. Qu'est-ce qui a fait que la formation n'a pas démarré à la période indiquée? Est-ce qu'il y a des soucis? Il n'y a pas des étudiants? Les étudiants ne veulent pas s'inscrire ou quoi? Voilà, on aura l'occasion de poser toutes ces questions pour approfondir, en savoir un peu plus. Merci professeur Michel Bissa d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous rappelons que vous êtes membre de l'équipe de coordination des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler des inondations. Comment prévenir les inondations et surtout les dégâts qui peuvent s'en suivre, tel que ça s'est passé à Kinshasa en mois de décembre dernier.